Bonjour Daniel, ainsi qu'à ton équipe. Voilà, c'est Jojo de Châteaurenard. Eh ben, je suis en train de faire la queue là, dans Marseille, où c'est le bordel, monstre, si je puis me permettre l'expression, boulevard Michelet. Je viens d'écouter la radio, il y a une réunion en préfecture de région des dockers concernant l'entreprise nationalisée SNCM. Bon, ben, je suis emmerdé, mais ça fait rien, je suis quand même avec les marins de Marseille pour défendre qu'il reste encore des services publics face à la privatisation et aux ultralibéraux qui veulent tout se mettre au marché, quoi.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, équipes et auditeurs. La première nouvelle que j'ai entendue ce matin, les CRS sont allés taper sur la gueule des grévistes qui voulaient bloquer le port de Marseille pour empêcher une privatisation, c'est-à-dire la vente d'un bien commun à tous les Français, payé par les impôts, pour de la capitalisation, pour faire du fric à la bourse. Et je suis dégoûté, je suis absolument effaré parce qu'on a eu la même chose ici à Grenoble. Les CRS ont tapé sur la gueule des papis, des mamies, des jeunes, des vieux, de tout le monde qui voulaient garder le parc Paul Mistral qui va être transformé en stade privé pour faire du fric privé dans lequel on mettra pas les pieds. Voilà, merci la France. Je fais remarquer au passage, parce que ça, je trouve ça pas dégueu, qu'à Marseille, ils ont un maire UMP, si je n'abuse. Et puis nous, ici, on a le magnifique Michel Destot, PS. Putain, leurs âmes en enfer. Salut.
Je voudrais soutenir les travailleurs corses, là, et qu'ils le coulent, ce bateau, ce serait super. Et quant aux travailleurs du Hewlett-Packard, j'aimerais bien qu'ils mettent des virus partout. Très bien. Allez, salut.
Allô, oui, bonjour, c'est Claude de Nîmes. Je viens d'entendre l'émission hautement pédagogique, là, qui se fait dans les banlieues. Bon, c'est formidable, quoi, c'est magnifique. On rêverait que cette initiative soit prise dans toutes les banlieues en France. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est vraiment, vraiment un travail intéressant, passionnant. Et vraiment, vraiment, c'est bravo. Hein.
Bravo pour l'émission d'aujourd'hui, 26, sur l'état de paix au Moyen-Orient et comment l'aborder ici en France. Pourquoi ne parleriez-vous pas, peut-être l'avez-vous déjà prévu, d'un regroupement de femmes israéliennes et palestiniennes qui travaillent coude à coude et qu'on appelle la coalition des femmes pour une paix juste, qui a donné aussi le groupement des femmes en noir, un peu comme les femmes de la place de Mai. Et le travail est depuis longtemps en place et mène vraiment à un travail du quotidien, pas féministe seulement, mais sur tous les plans de la vie quotidienne, à travailler israélienne, palestinienne, pour une paix juste, arabe et juive ensemble, et la mise en place de la cohabitation quotidienne. Voilà. Je laisse peut-être, si j'ai le temps, un site de ce groupement, c'est www.geocities.com/cwjpil/coalition des femmes pour une paix juste, femmes militantes israéliennes, juives et palestiniennes. Allez, à bientôt, merci.
Dis-moi, Hatsen, mais de quel quartier tu viens? Oh mon Dieu, que ta tchatche marseillaise était belle. Eh ouais, elle était belle. Écoute, je suis ému de t'avoir entendu, je suis marseillais, et bravo, quoi. Bravo de tes lectures, bravo de ton analyse, et bravo de ta sérénité face à ce drame humain que vivent tes confrères arabes là-bas sur le territoire palestinien, et ton analyse vis-à-vis du peuple israélite dont tu parles avec aussi beaucoup de respect. Bravo, bravo Hassan. Tu me réconcilies vraiment avec l'humain. Allez, encore des émissions pour Daniel et pour toute ton équipe, où vraiment vous nous faites rencontrer des humains. Allez, c'est Olivier de Marseille. Au revoir.
Je viens d'entendre Hassan dans votre émission. Et c'est la première fois que je vous appelle. Pourtant, j'écoute souvent votre émission. Et Hassan parle très bien. Il a des tas d'idées fabuleuses et intéressantes. Mais je voudrais juste lui dire que juif, hein, c'est pas une nationalité, et que les juifs qui vivent en France sont français au même titre que lui, et que s'il ne peut pas supporter de pas s'être intégré, il faut pas s'en prendre à une autre communauté qui a tant souffert par le passé également d'avoir été ostracisé comme ça. Donc Hassan, s'il te plaît, juif, c'est français quand on vit en France et c'est pas une nationalité d'être juif. Voilà. À bientôt.
Oui, merci de prendre mon appel. C'est Keshan Ajib du Haut-Rhin. Là, je suis en train d'écouter l'émission. Merci, Daniel, sur la Palestine. Pour moi, la Palestine, elle suscite d'abord un grand espoir pour la démocratie. La démocratie dans le monde arabe. Je m'explique. Je crois que dans le monde arabe, il n'y a qu'en Palestine et que les Palestiniens qui votent démocratiquement. Voilà, c'est pour ça que la Palestine, pour nous, issue du Maghreb, est un point important. Voilà. Merci. Au revoir.
Bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Donc, c'est pour annoncer la date de réunion du prochain repère de la Bassie J'y suis, donc au marché Bar, le 29 octobre. Avant, ça n'allait pas. Donc, on n'était pas tous libres en même temps. Donc, le 29 octobre, donc c'est un samedi, 14h30, les repères de la Bassie J'y suis au marché Bar, rue de Zurich à Strasbourg.
Bon, alors c'est pour les rendez-vous du Café Repère Parisien, Paris 20e, le lieu dit 6 rue Sorbier, dans le 20e. Prochain rendez-vous samedi 1er octobre à 16h. Voilà. À bientôt et merci pour l'émission.
Voilà, vous avez pris note des rendez-vous et vous avez pris note des petits trous entre vos messages. Eh bien, c'est que notre Christophe Humbert est amoureux et il s'est planté dans ce montage. C'est les bons messages qu'on avait sélectionnés, mais voilà, il y a des petits espacements comme ça. C'est les battements de cœur qui font ça. Alors, vous avez été vraiment très nombreux là à réagir sur l'émission d'hier, sur cette façon, cette tentative de parler autrement du conflit israélo-palestinien et de ses répercussions en France à travers ces conférences et ces débats Leïla Chaïd, déléguée de l'autorité palestinienne en France, Dominique Vidal, historien et rédacteur du Monde diplomatique, et Michel Warchavski, intellectuel israélien, ont fait à travers tout ce pays. Ils ont été dans 45 endroits au cours de ces deux dernières années et demie, et au cours des 30 derniers mois, et une 45 lieux, villes, lycées, collège, etc., pour parler, pour débattre, et surtout pour enseigner, pour apprendre tout simplement ce qu'est ce conflit, ce qu'est cette terre convoitée par deux peuples. Et puis ces répercussions en France, dans notre société, où nous avons une communauté juive importante, ainsi qu'une communauté alors arabo-musulmane qui est aussi importante, avec ses contentieux, avec ses mémoires, avec ses souffrances, avec ses espérances, etc. Et ses projections sur ce conflit qui se projette aussi sur notre pays, nos sociétés, et qui est devenu un sujet bloqué, le sujet qui fâche. Il faut plus en parler, sinon ça va gâcher la soirée. Et on a même vu le moment où, ça reviendra évidemment, où certains entendaient nous faire taire en utilisant, par exemple, le chantage à l'antisémitisme, et essayaient d'inhiber complètement toute possibilité de dialogue, de débat. Donc d'où cette tentative qui visiblement a bien marché, et dont le reportage, le compte rendu sonore que nous avons fait vous a beaucoup intéressé, si bien qu'on continue aujourd'hui toujours dans le sud. Là, si hier on était à Marseille, cette fois aujourd'hui on va aller à Gardanne avec nos trois hardis conférenciers. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les réactions, c'est les échos, ce que ça fait dire à ceux qui assistent à ces débats ou qui se sentent concernés. Ils sont très nombreux par ce sujet qui est devenu un clivage dans notre pays qui ne ressemble pas aux autres clivages du type gauche-droite, dominant-dominé, etc. C'est un autre clivage que ce conflit suggère. Et ce que je voudrais vous suggérer aussi, j'en parlerai plus longuement dans les jours qui viennent, mais c'est un journal qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle le Gris-Gris International. Le Gris-Gris International, international, c'est un quinzomadaire satirique panafricain. Quinzomadaire satirique panafricain, ça veut dire que c'est un journal qui sort tous les deux semaines et qui traite de sujets africains, mais de toute l'Afrique, aussi bien le Maghreb que l'Afrique noire, et sur un ton, alors on va dire proche du canard enchaîné, même si évidemment c'est pas le canard enchaîné, mais c'est ce ton à la fois drôle et percutant et pertinent et érudit, je dirais, qui traite d'un tas de sujets là, et qui est absolument passionnant. On en reparlera, mais vous pouvez vous précipiter pour tout de suite dans votre kiosque et vous pourrez dire j'ai été parmi les premiers à connaître ce journal et à en profiter, on en reparlera. Donc aujourd'hui, Gardanne, le conflit israélo-palestinien et ses répercussions en France. Auparavant, un autre message, un seul, il est long, mais écoutez, c'est l'analyse d'un auditeur dans La Base Si J'y Suis, sur le répondeur de La Base Si J'y Suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Laurent Verblay. Hier, comme beaucoup de mes concitoyens, j'ai regardé l'émission sur France 3 avec Sarkozy. Mais aujourd'hui, j'ai la nausée. Pas vous ? Eh bien, lisez. Lisez La Grande Désillusion de Joseph Stiglitz, Le Grand Bond en Arrière de Serge Halimi, L'Empire de la Honte de Jean Ziegler, ou encore L'Afrique sans dette de Damien Millet, L'Inavouable, La France au Rwanda de Patrick de Saint-Exupéry, et La Mémoire des Eaux de Clara Koff. Et regardez à nouveau cette émission, et vous serez atterré aussi par ce vide. Le vide et les non-dits des causes de cette radicalisation et de ces vagues de terrorisme croissantes. Car à aucun moment, M. Sarkozy ou les autres invités n'ont parlé des causes. À peine la journaliste a-t-elle osé une question, aussitôt elle lui dépasse Sarkozy. Pendant 2 heures, on nous a dit qu'il fallait nous attendre bientôt à être des victimes de ces monstres. On nous a effrayés. Qu'il fallait aussi accepter toutes les atteintes à la liberté et aux libertés individuelles pour se protéger. Se protéger, voilà le maître mot. Tel un George Bush qui croyait que les digues de la Nouvelle-Orléans tiendrait face aux assauts de Katrina, Nicolas Sarkozy pense aussi pouvoir protéger ses administrés en expulsant les extrémistes. Quelle leurre ! Comment croire cela ? Tant que le monde occidental accapare à lui seul la majorité des richesses mondiales, laissant dans la misère la plus totale 3 milliards d'êtres humains. Cette émission aurait dû nous éclairer sur les causes et nous dire que l'issue résidait dans une meilleure répartition des richesses. Car c'est clair que c'est le sentiment d'injustice et leur situation désespérée qui pousse ces jeunes vers les sirènes du fondamentalisme religieux. Et les charters de Sarkozy n'y feront rien. Au contraire, cette impression de place forte vers laquelle évoluent nos pays ne fera qu'accroître le ressentiment du reste du monde envers l'Europe Eldorado. Un dernier mot. L'ancien directeur de la DST, le juge Bruguière, qui ont presque juré devant l'écran que la France n'utilisait pas les méthodes de la CIA, ne se rappelle déjà plus de l'Algérie ? Même 20 ans après, on nous soutenait encore qu'il n'y avait pas eu de torture lors de cette guerre. Ah, la raison d'État, toujours la raison d'État. Mais réfléchissons ensemble aux causes du terrorisme. Je les entends d'ici, ceux qui diront que mon message est simpliste, voire populiste. Ne pas réfléchir aux causes réelles du terrorisme et vouloir faire l'autruche sans prendre en compte la misère des autres, ce n'est pas non plus très glorieux et au moins aussi inefficace. Mais Sarkozy, si jamais un malheur arrive à Paris, sera tranquille devant l'opinion publique. Il aura fait croire à tous qu'il a agi pour notre protection, alors que les réelles actions à promouvoir n'ont pas été abordées une seconde lors de l'émission. Bon courage à tous, et excusez-moi pour la longueur du message. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Ben Si J'y Suis, avec Leïla Chaïd, Michel Warchavski et Dominique Vidal.
Flight number 2, arriving from New York.
Je suis Mustapha El Miri, le maire adjoint à la culture de Gardanne.
Donc là, la rencontre va commencer. Dites-moi un peu quel est le public qui est là.
C'est un public de jeunes lycéens principalement. Il y a les élèves du lycée professionnel de l'Étoile et les élèves de lycée agricole. Et puis, il y a d'autres personnes qui se sont présentées de manière individuelle pour participer au débat.
Ils ont été préparés, ils ont eu un...
Oui, ils ont travaillé sur la question avec leurs enseignants.
Alors, quelle question ? La question du conflit israélo-palestinien.
Du conflit.
Ou de l'histoire vaguement évoquée.
Le conflit introduit forcément l'histoire pour des enseignants. Sauf pour les médias audiovisuels. Sinon, pour les enseignants, dès qu'on parle de conflit, on parle aussi forcément de l'histoire.
D'accord. Ils ont quoi ? Ils ont 17 ans, 18 ans ?
De 15 à 18 ans.
Et ils se préparent à ?
À passer un BEP pour certains et à passer un bac pour d'autres.
C'est un événement pour Gardan, la présence de...
De Leïla Chahid, de Dominique Vidal et de Varchevski, oui, c'est un événement. C'est un événement parce que, quand même, le conflit israélo-palestinien, c'est un des conflits les plus médiatisés. Et malgré la médiatisation, c'est un des conflits où on n'y retrouve pas grand-chose. On ne se retrouve pas, en tout cas.
Il est tombé.
Leïla, superstar.
Je ne sais pas s'ils la connaissent, s'ils l'ont vue. Je pense que son passage chez Thierry Ardisson qui y fait aussi, donc la télé parfois peut servir.
Michel Varchevski, ça fait combien de séances vous faites comme ça avec elle?
18.
18. La 18e séance?
Non, pas 18e séance, 18e ville.
18e ville, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit extraordinaire en fait.
Ben oui, oui.
Absolument. Mais ça devrait être la chose la plus normale du monde.
Le plus extraordinaire, c'était à Perpignan, toute petite rencontre. Et ça se finit, et il y a un môme qui se lève, j'avais 16 ans, et il dit « Merci d'être venu. Jamais personne ne vient. »
Aucun politicien.
Jamais aucun politicien ne vient. Jamais merci d'être venu.
Je voudrais te dire, parce que je comprends ta question comme étant aussi un intérêt en tant que femme arabe toi-même d'origine et française aujourd'hui, c'est que j'ai commencé avant tout par être militante. Et moi, je me considère un ambassadeur et aussi une militante de la Palestine. Et à 18 ans, lorsqu'il y a eu la guerre de 67, j'étais persuadée que nous allions libérer notre territoire et pas voir de nouveaux territoires palestiniens occupés. Et lorsque j'ai vu que malheureusement c'est exactement le contraire qui s'est passé, que non seulement on n'a pas pu résister puisque toutes les armées arabes ont été battues, mais on a aussi occupé la Cisjordanie et Gaza, j'ai décidé de rentrer dans un parti politique. Et il se fait que c'était le parti politique que représente le président Arafat. Donc j'ai été militante pendant de très nombreuses années sans avoir de poste officiel. Et puis en 1989, le président Arafat a décidé, et c'est là où il était intelligent, qu'il fallait aussi des femmes comme représentants de la Palestine à travers le monde. Et il m'a proposé en 1989 d'être ambassadeur de la Palestine en Irlande, puis en Hollande, puis à l'UNESCO, puis au pays, en France. Et c'est comme ça que je suis devenue représentante de la Palestine en France. Et je trouve que, parce que justement le peuple palestinien doit expliquer ce qu'il veut, qu'il doit expliquer qu'il veut créer un État à côté de l'État d'Israël, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on explique que nous, on n'a pas de guerre contre ni le peuple israélien, ni le peuple juif, mais le gouvernement israélien qui occupe ces territoires, que j'ai commencé à faire ce travail, qui est avant tout un travail d'information. Je fais de l'information.
Tout le monde connaît cette voix, celle de Leïla Chahid, qui là est en train d'expliquer son parcours, son engagement auprès de jeunes de Gardanne venus dans cette médiathèque de leur lycée professionnel, de leur lycée agricole, pour essayer de comprendre ce qui se passe au Proche-Orient et les répercussions, pourquoi il y a des répercussions, de quelle nature dans notre pays, à quoi ce conflit fait écho dans les profondeurs de notre société pour arriver à ces incompréhensions, ces blocages, ces violences, ces actes antisémites, ces actes racistes. Pas facile de comprendre ce conflit qui, on l'a dit hier, est très ancien, fait référence à une multitude de facteurs, est toujours abordé de façon extrêmement passionnelle, est tenté d'introduire de la raison dans ce conflit est extrêmement difficile. Faut-il d'ailleurs vouloir en introduire? Ben oui, parce qu'on sent bien, on sait bien que la paix sera à ce prix-là. Aujourd'hui, on va sortir du politiquement correct. Et ce qui bloque, l'un des premiers obstacles devant ce conflit, cette histoire immédiate, cette histoire en marche, c'est bien évidemment le langage. Quand il y a débat à n'en plus finir jusqu'à la violence lorsqu'on emploie le terme colonisation à la place d'implantation, ça vous ou implantation à la place de colonisation, ça vous catalogue immédiatement. Lorsque on dit le mur par exemple, bien ça vous identifie tout de suite. Pour ceux qui disent clôture de sécurité, c'est joli une clôture de sécurité. Il y a d'abord un mur de langage qu'il faut franchir pour commencer à rentrer dans cette histoire. Et là, on a un obstacle qu'on pourrait qualifier de orwellien. Hein, George Orwell, 1984, vous vous souvenez, le ministère de la vérité, qu'est-ce qui était écrit sur le fronton du ministère de la vérité dans Orwell, c'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. L'ignorance, c'est la force. Eh bien, c'est contre cette force-là, cette ignorance-là, que nos trois amis se battent, avec tous ceux qui les écoutent en chair et en os, parce qu'ils sont là dans cette école. Là, il y a pas de caméra, il y a les micros de là-bas, si j'y suis, c'est quand même pas les médias en général. Et on sait bien, nous savons bien tous que tout se fait toujours peu à peu, pas à pas, avec Leïla Chaïd qui est une femme en marche, qui est une femme qui bouge toujours, une militante, une intellectuelle, qui dit « je viens informer » et qui me fait penser à cette phrase d'Armand Gatti, « comme si marcher était le but à atteindre ». Mais t'as pas posé toutes tes questions?
Si, j'ai posé toutes les trois.
Oui, il y en avait une sur Arafat.
Et il y a une sur sa carrière et son parcours.
Le parcours de Leïla.
De Leïla.
Mais tu t'intéresses au conflit israélo-palestinien?
Oui, bien sûr, comme chaque personne algérienne ou arabe ou s'intéresse à des informations. Quoi. Ouais, on est tous
comment tu t'informes?
Je m'informe par la télé, par... les médias, il y a tout.
Quoi. Tu fais des études, tu fais quoi?
C'est une formation.
Ici?
Oui.
Ah, ok. Mais on dit qu'il y a une importation du conflit ici. C'est-à-dire que les tensions israélo-palestiniennes, on les retrouve ici entre arabes et juifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez?
Ça, c'est sûr.
Hein?
Moi, je peux rien dire de quelle façon.
Par exemple, Marseille est divisé de plusieurs...
Plusieurs nationalités.
Voilà, plusieurs quartiers. Par exemple, moi, si je vais vers le rond-point du Prado, il va y avoir que des Israéliens. Si je vais, par exemple, dans mon quartier à la Belle de Mai, il y a plus de Maghrébins, plus d'Italiens, plus de Corses. C'est... on n'est pas ensemble.
On est partagé, quoi.
Ouais. D'accord, mais tu vas, si tu vas au Prado, qu'est-ce qui va se passer?
On va se sentir un peu d'un autre regard, regarder d'un autre regard. Ouais. Si on va aller travailler, par exemple, au rond-point du Prado, il y a beaucoup de personnes israéliennes là-bas.
Qui veut dire des juifs?
Oui,
qui veut dire des juifs, tu sais, c'est pas un péché.
Un arabe, pour eux, c'est un palestinien. Et nous, on voit un juif, ça veut dire qu'il est en train de faire des malheurs aux Palestiniens. Voilà. Nous, moi, quand je vois personnellement un juif, ça me fait un choc. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tous les moyens pour détruire un Palestinien.
À quoi tu vois que c'est un juif?
Ouais, parfois ça se voit. Ils ont des trucs là sur les têtes ou. Il portait des trucs de religion, quoi. Mm-hmm. On voit que c'est un. Certains quartiers, il y en a plein des juifs. Hein.
Est-ce que tu fais la différence entre lui qui est juif, mais il est français, ouais. Juif, et toi, ouais. Qui es française d'origine maghrébine ou algérienne, ouais. Est-ce que tu fais la différence entre lui qui est français juif et un israélien d'Israël?
Oui, ça c'est sûr. Hein. Parce que c'est la personne juive, elle est née ici. Elle vit ici, elle a une mentalité de, elle va voir des Palestiniens d'une autre façon qu'un Israélien qui est là-bas en Palestine, quoi.
Tu penses quoi?
Sincèrement, moi, quand je vois les images qu'ils montrent à la télé, ça me ronge, ça me.
Quelles images?
Tout ce qu'ils montrent pour la Palestine et tout. Il faut dire aussi que les Israéliens, ils ont plus de droits que la Palestine. Ils ont des aides. D'où ils apportent toutes ces armes et tout ça? Les Palestiniens, ils n'ont pas tout ça. Il faut dire la vérité aussi.
Non, non. Tu pourrais épouser un garçon juif, toi?
Non.
Et pourquoi?
Parce qu'il a fait en Israël, non, je ne peux pas.
Ah, mais il n'est pas responsable de ce qu'il...
Oui, ça, je sais, mais non. Je ne pourrais pas.
Tu sais, mais non.
Ouais.
Toi?
Moi, je dirais entre oui et non.
Voilà. Toi?
Non, moi, non. Par rapport à mes origines, non.
Chacun il a sa religion, hein. C'est la religion qui compte. Hein. Voilà.
Toi?
Je veux pas, moi aussi.
Hein, toi non plus?
Non.
Ah, ma mère, elle m'égorge, moi, si je me marie.
Tu vas faire passer ta mère pour une sauvage?
Non, quand même pas. Mais je veux pas renier mes origines pour aller me marier avec un juif.
Dans tout ça, moi, je veux juste dire, il faut arrêter la violence, le racisme. Il faut arrêter de critiquer les jeunes du quartier, parce que ça, c'est mauvais. Il faut arrêter, il faut vivre juste en paix. C'est tout ce qu'on demande.
Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter.
Enculé de ta race!
Pas facile, hein.
Bah oui, mais c'est une illustration express du racisme contre les racistes. Et oui, peut-on être raciste envers les racistes? On rigole, mais c'est une question fondamentale, fondamentale. Si on pense à Robert Anthelme, vous vous souvenez de ce livre, et si vous vous souvenez pas, il faut absolument que vous lisiez ce livre formidable qui s'appelle « L'espèce humaine ». Et c'est un des grands livres sur l'expérience concentrationnaire avec celui de David Rousset et Primo Levi, si c'est un homme. Et Robert Anthelme, dans « L'espèce humaine », répète sans cesse « Ne retranchez personne de l'humanité ». Ne retranchez personne de l'humanité. Belle phrase, mais concrètement, est-ce que le bourreau, est-ce que le capot, est-ce que le SS fait partie de cette humanité? Oui, dit Robert Anthelme. Difficile à accepter. On a envie de rejeter cette partie de l'espèce humaine et dire qu'ils ne sont pas dignes de faire partie de l'espèce humaine. Toute la question est là. Et Anthelme dit, et on l'a dit avant lui, et on le dit depuis lui, bien évidemment, qu'on ne peut pas reproduire ce rejet, ce racisme contre le raciste, sinon on donne raison à la pensée ou l'absence de pensée du raciste. On donne raison à l'inhumanité du raciste, et de cette façon, on renouvelle et on perpétue ce système. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile surtout à accepter, à comprendre peut-être, mais accepter, c'est pas facile parce qu'il y a tout un christianisme qui a, et des branches du christianisme qui ont exploité cette pensée, cette morale, cette éthique, à des fins d'asservissement. Et donc, c'est une question qui est vivante, qui est là, dans cette classe où nous nous trouvons, à Gardanne, au lycée professionnel, d'enseignement professionnel de l'Étoile, à Gardanne, où les jeunes filles, c'est presque exclusivement des jeunes filles dans cette classe, parlent après avoir écouté l'exposé de nos trois, Michel Barchavsky, Leïla Chaïd et Dominique Vidal, sur le conflit au Proche-Orient et sur ses répercussions ici. Voilà ce que ça fait dire. Voilà ce qu'on essaye de dire sur la vie dans les quartiers. Alors, ces actes antisémites, cette montée de l'antisémitisme et cette montée de l'islamophobie dont on a beaucoup beaucoup parlé dans la presse, est-ce qu'on peut en parler d'une manière pas trop dramatique, dédramatisée, et essayer de débattre? Vous vous souvenez que quelqu'un me disait un jour à Marseille, tu sais, dans la fameuse scène du jeu de cartes, hein, dans Pagnol, tu me fends le cœur. Ces braves Marseillais, pittoresques et folklorisés, une fois le plan terminé, reposaient les cartes et allaient balancer les Italiens, les Ritales, à la mer, parce que il y avait une immigration italienne. Et bon, ensuite les Italiens ont réussi à s'intégrer, ça n'a pas été facile, et aujourd'hui à leur tour, etc. Et on dit oui, mais voilà, ça se passe d'une façon souvent rugueuse, mais il y a un creuset d'intégration à Marseille. Est-ce qu'on assiste là à nouveau à une intégration rugueuse, ou bien est-ce que c'est plus grave que ça? Est-ce que le conflit israélo-palestinien se répercute, envenime les relations? C'est des questions sur lesquelles il est très difficile de poser un avis certain, sauf à instrumentaliser à des fins politiques ces conflits, ces clivages et ces tensions. On est avec ces jeunes dans ce lycée d'enseignement professionnel de l'Étoile. De l'Étoile à Gardanne.
Ce qui était difficile, c'est le lien entre conflit israélo-palestinien et banlieue, parce que c'est difficile à faire. C'est difficile parce que on peut accréditer l'idée que les jeunes de quartier ont un comportement qui est lié au conflit israélo-palestinien, ce que je pense être totalement faux, parce que c'est surestimer d'une part les jeunes de quartier, ou alors les sous-estimer. Il y a une tentative d'instrumentalisation par différentes forces, qu'elles soient intégristes musulmanes ou des forces pro-Sharon ou pro-politiques de colonisation en Palestine. Sinon, sur les jeunes, d'abord, il y a peu de connaissances sur la Palestine, peu de connaissances sur Israël. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme, mais il y a de l'antisémitisme ordinaire. C'est ce qui est le plus grave. L'antisémitisme ordinaire ne se limite pas au quartier ni aux banlieues. C'est l'antisémitisme qu'on retrouve un peu partout, avec les clichés. Le juif, c'est quelqu'un qui a forcément de l'argent. Le juif, c'est forcément quelqu'un de suspect dans son comportement. Et ce type de réflexion, moi, je les entends à la fois dans les quartiers, à l'extérieur des quartiers, à la fois de la part des jeunes maghrébins, à la fois de la part des jeunes européens. Donc ça, c'est un véritable problème. Mais dire qu'il y a un lien entre le comportement des jeunes et le conflit israélo-palestinien, c'est nier les tensions qui ont lieu dans les quartiers, les tensions liées aux problèmes sociaux principalement. Voilà, et je pense que là, tout le monde a intérêt à ce lien, en définitive. Les pro-Sharon ont intérêt parce que par là, ils permettent d'avoir une bataille par rapport à l'opinion publique. Vous voyez, ces Arabes sont méchants, ainsi de suite. Les intégristes musulmans ont intérêt parce que, vous voyez, on défend plus les juifs que les musulmans. Donc il y a bien un complot juif et un complot sioniste. Et puis d'autres ont intérêt à ce qu'il y ait discussion sur ça, parce que pendant qu'on discute de ce lien, on ne discute pas des véritables problèmes des quartiers. Le problème plus franco-français, comme a dit Dominique Vidal, est bien plus grave. Et je pense que ce lien aujourd'hui sert à beaucoup de gens. Voilà. Et les jeunes ont fait part, de par les questions qu'ils ont posées, de volonté de comprendre, hein, dans leur comportement. Donc c'est pour ça que je m'inscris en faux contre l'idée qu'il puisse y avoir lien, comme le souligne régulièrement Kuckerman, entre le comportement des gens de banlieue et le reste. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les banlieues, qu'on comprenne bien. Hein. Il existe un antisémitisme ordinaire, qui est dangereux, insidieux. C'est le même antisémitisme qui fonctionne depuis l'Empire romain, qui fonctionne dans les pays arabes, qui fonctionne dans les pays européens. Aujourd'hui, si on veut traiter les quartiers, il faut arriver à dépolluer la question des quartiers, de la question religieuse, qu'elle soit juive ou musulmane. Quand je dis dépolluer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre en compte, ça veut simplement dire que cette question, on a tendance à la mettre comme question principale, et le voile, pour le coup, c'est là qu'on met. C'est là qu'il y a voile réel, voile des problèmes sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des revendications pour construire des mosquées. Il y a des revendications pour pouvoir pratiquer.
Ici à Gardanne, par exemple.
Partout, ces revendications remontent. Mais pendant longtemps, il y a eu d'autres revendications, on les a oubliées. Revendications d'équipement public, revendications d'école, revendications de lutte contre l'échec scolaire, revendications en matière de santé. Donc ces revendications ont été balayées d'un revers de main par la question religieuse. Et ce que je constate au niveau local et au niveau régional, c'est que dans cette revendication religieuse, ceux qui ont la main mise, ce sont les imams. Qu'ils soient d'ailleurs fondamentalistes ou pas, peu importe, je dirais à la rigueur. Ce sont ces imams qu'on a remis au centre du jeu. Et on refabrique par là la société villageoise du début des années 50 qui pouvait fonctionner dans les pays arabes. L'imam reprend une espèce de figure, de personnage qui va distribuer les normes. Normes sociales, normes politiques, normes morales. Et à travers la question religieuse, c'est à eux, c'est aux imams, c'est aux religieux à qui on a donné la parole en premier. Or, si je prends les statistiques sur les jeunes maghrébins qui pratiquent, ils sont de l'ordre de 15%. Si on prend le taux de pratique chez les jeunes, c'est un taux équivalent aux jeunes français, un taux équivalent aux jeunes juifs. Très peu de pratiques religieuses. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de croyances. Et on est en train de faire croire que cette question religieuse est devenue principale dans les quartiers, que les jeunes la posent, qu'ils revendiquent des mosquées. Alors, je répète que la revendication des mosquées est une revendication juste. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. Mais en aucun cas, ça peut être la revendication principale. Et aujourd'hui, à travers le Conseil du culte musulman, je redis ce que je dis, lorsqu'on dit à l'État français que le seul interlocuteur en ce qui concerne les populations issues de l'immigration maghrébine sont Boubekeur, bien je trouve cela gênant. Je trouve cela gênant, d'autant plus qu'on demande aux populations maghrébines de respecter la laïcité. Comment peut-on leur demander de respecter la laïcité et prendre comme un seul interlocuteur Boubekeur? Donc là, il y a une contradiction de la part de l'État français. Et je comprends cette contradiction parce que il est plus facile de traiter avec Boubekeur que de traiter avec des Maghrébins qui sont à la CGT, qui sont à la CFDT, qui sont à Force Ouvrière et qui sont en gros intégrés. Il en existe beaucoup.
Voilà. Tu pourrais te marier avec un gitan?
Moi oui, parce que mes parents, ils sont ouverts. Alors, mes parents, ils n'ont pas de préjugés sur ça, donc je pourrais me marier avec un gitan.
Mais est-ce que tu peux te faire draguer par un gitan si on doit te balader dans le quartier avec un gitan?
Non,
mais ça me tue, mon frère.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
T'as essayé?
Je veux pas essayer, je suis jeune. J'ai encore le temps. Non, il faudrait voir, peut-être que c'est. Voilà, c'est un peu comme l'histoire, c'est bête, c'est-à-dire, mais c'est un peu comme Roméo et Juliette, voilà. C'est chaque milieu reste à sa place. Et quand on regroupe deux personnes de différents milieux, ben, ça crée des conflits énormes.
Voilà. Et voilà, est-ce que c'est Roméo et Juliette? Est-ce que c'est West Side Story? Est-ce que c'est les bagarres entre les Sharks et les Jets? Ou est-ce que c'est beaucoup plus grave que ça? Voilà, il y a un basculement de langage, hein, entre ce que nous expose Mustapha El-Niri, qui est adjoint à la culture à la ville de Gardanne, qui est sociologue. Il a son point de vue et celui des élèves de ce lycée d'enseignement professionnel de l'Étoile à Gardanne, qui ont assisté donc à la conférence et au débat, et disent tout simplement ce qu'elles ressentent et comment ces questions du conflit du Proche-Orient, de ses répercussions en France, se retrouvent dans leur vie quotidienne.
Et c'est ça, dans un quartier, il y a tellement de races mélangées, il y a des clans, c'est des clans. Cet immeuble, il est réservé pour cette race, cet immeuble pour cette race. Et donc, les gens, ils sont, même s'ils doivent vivre soi-disant ensemble, ils ne sont pas ensemble.
Ça te choque qu'elles disent race, hein?
Un peu, quand même. Ouais.
Mais tu voudrais qu'elles disent, mais tu voudrais qu'elles emploient un autre mot, mais c'est pour dire la même chose.
Hein? Origine, c'est plutôt.
Ouais, c'est équivalent. Ouais, race, on dit la race d'un chien.
Qu'est-ce que tu dis?
On dit la race d'un chien. L'origine de quelqu'un, d'une personne.
C'est l'équivalent. Sincèrement, je sais pas, c'est mou parce qu'il est plus choquant, mais il me touche plus que l'origine. Je le comprends mieux. Il y avait autant de familles françaises que de familles arabes, que de familles juives ou que de familles gitanes. On était le même nombre. Et puis après, il est arrivé beaucoup plus de familles d'une autre origine. Et donc, ça fait que les tensions le montent plus facilement. Ils sont plus nombreux, donc ils impressionnent plus, ils vont vouloir s'imposer. Donc,
on revient 100 ans en arrière.
Voilà, ils veulent s'imposer, nous, on veut se défendre. Et c'est des insultes, on ne peut pas se parler. C'est des insultes, c'est je te casse ta voiture.
Quand tu dis ça, moi, j'ai du mal à me situer parce que... Moi, tu vois, je suis marié avec... Je suis d'origine maghrébine, hein, ou de race maghrébine, comme tu veux. Et ma compagne, elle, est française, avec un grand-père alsacien, d'autres qui sont des Alpes. Et on a un petit enfant qui, lui, donc, est mélangé à la fois maghrébin, maroc, à la fois alsacien, ainsi de suite. Et on arrive à s'entendre. Donc, il n'y a pas forcément de conflit. Non seulement on s'est entendu, mais en plus, on a même fait un enfant. Et qui, lui, sera le mélange des deux. Donc, il y a possibilité. Est-ce que le fait, dans les quartiers, qu'on ne s'entende pas, c'est lié simplement à l'histoire de l'origine sociale? Aussi lié à d'autres histoires qui font que l'entente devient difficile parce que les conditions de vie sont difficiles. C'est ça que je voudrais comprendre. Donc c'est quoi la solution ?
La solution ?
Une seule origine par quartier ?
Non, ça serait que les parents réfléchissent un peu à ce qu'ils disent.
D'accord. Donc on remet
les
en cause
ceux qui donnent ces discours. Les enfants
réfléchissent un peu plus. Moi, par exemple, mon père, je sais que quand il y a eu les élections pour Le Pen et Chirac, il avait voté Le Pen. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec lui.
C'est ça.
Donc, moi, je pense que c'est la même chose. Il faut que les enfants, ils pensent leur propre opinion.
C'est ça.
Et qu'ils t'imposent rien, tes parents.
Voilà. Mais non, ils t'imposent rien. Mais certains, oui, ils imposent.
Bon, mais bien sûr.
Certains, ils imposent.
Tes parents, ils t'imposent. Tu vas pas les. Je sais pas.
Quand tu peux pas leur dire.
Tes parents, c'est tes parents.
Ah oui.
Si tu es ouverte.
Déjà, d'entrée, tu sais que. Moi, mon père, il est raciste. Je sais que si. D'entrée, je le sais qu'il est raciste, je vais pas m'amuser à sortir avec des gens d'une autre couleur.
Et moi, justement, oui.
Mais moi, non, parce que moi, j'ai été... Mon père, c'est mon père, quoi. Je veux dire, ça reste mon père, même si j'aime pas ses propos. Mon père, c'est quand même mon père et je ferai pas quelque chose pour...
Mais c'est ta famille,
tu vois. Non, pas d'accord.
Même si c'est pas par
amour. Attends, c'est drôle ce que vous racontez. Toi, ton père est raciste, oui. Et tu obéis. Toi, ton père est raciste,
non,
tu
dis... Non, j'obéis pas, mais t'obéis je me serais pas amusée.
Toi, t'obéis pas non plus.
Moi, j'obéis pas, moi.
Mais il est raciste de quoi, ton père?
Il est raciste des Arabes.
Mais c'est une Arabe aussi.
Donc voilà, en plus, je suis une Arabe et voilà quoi. Il m'a toujours dit...
Tu sors pas avec des Arabes.
Tu sors pas avec des Arabes.
Moi, il a peut-être raison, faut pas sortir avec ces gens-là, c'est peut-être des gens dangereux.
Bah oui, c'est... peut-être, mais bon, j'ai rien eu encore, hein, ils m'ont rien fait encore. Hein.
C'est ton père qui est arabe, qui critique les Arabes.
Non, c'est ma mère qui est arabe et mon père, lui aussi, c'est un noir.
Il est des îles.
C'est loin. Donc, ça...
Si nous dit, je veux pas que tu te maries avec cette origine, c'est restreint.
Mais
c'est restreint.
Il y a 50 ans en arrière.
Il n'y a plus beaucoup de monde.
On dirait qu'ils n'ont pas.
On n'a pas le choix. Voilà, si par exemple, demain je tombe amoureuse d'un juif et mon père, par exemple, veut pas un juif chez moi, comment je fais? Je vais abandonner mon amour pour mes parents, alors sachant qu'ils sont vieux et ils m'ont dit. Non, je dis voilà, il faut laisser chacun ses choix. Si on se marie avec un arabe, il faut apprendre à aimer sa religion comme lui, il doit apprendre à aimer notre religion. Il doit respecter nos choix et pas les imposer ni aux enfants ni à la mère non plus. Si par exemple elle est blanche, elle a pas imposé Jésus et pâté un coup fin. C'est chacun égaux.
Vous avez parlé de la Shoah dans vos cours ici.
Oui, oui. Mais j'ai fait l'exposé. Oui, on en parle souvent. C'est notre sujet préféré.
C'est votre sujet préféré? Vous parlez de la colonisation aussi?
Moins. C'est plus l'histoire des juifs. C'est mieux, quoi. Ça nous marque plus. C'est plus violent, voilà. Les images, c'est choquant. Ça nous choquera, je crois, tout le temps. Hein, parce qu'elles sont fortes, les images. Les personnes, quand elles parlent et tout, je me sens trop proche de... Et pourtant, je ne suis pas juive, hein, mais ce qu'ils ont ressenti, je me dis,
Ça me fait trop mal pour eux, voilà. Ça, c'est vraiment, j'ai de la peine pour ce peuple.
C'est chaque année à l'école, on refait le sujet, quoi.
Voilà. Donc, en plus de ça.
Qu'est-ce que vous auriez souhaité savoir?
Bien sûr, les médias, ils ne doivent pas tout nous montrer. Ah, ils nous montrent déjà ce qu'ils veulent faire audience. Et après, j'en suis sûre que les images crues et tout, c'est après une affaire de politique, ils doivent les acheter. C'est pas possible. Il y a des milliers de morts et on en voit toujours un mourir. C'est toujours le même dans tous les reportages. Alors que sincèrement, ils sont des milliers à mourir.
Ah oui,
je comprends pas.
Mais ça, c'est toujours pareil. Comme quand il y avait la... Ah oui.
On nous montre toujours les mêmes images, on nous dit, mais il y en a plein aussi qui sont malheureux. Mais
on voit que lui. Quand il y avait la vache folle, ils montraient toujours la même vache.
Oui.
Voilà, lycée d'enseignement professionnel. Suite à la conférence de Leïla Chahid, Dominique Vidal et Michel Barchavski, et voilà ce que ça fait dire, voilà les réactions, voilà comment on parle, voilà avec les mots qu'on a, sans se laisser intimider par le politiquement correct, par tous ces mots qui veulent absolument bloquer l'expression et le langage. Alors on retrouve à Seigne un auditeur en début de dans les messages qui était enchanté par le ton et les idées de ce garçon, ce jeune garçon qu'on a rencontré donc à l'école de la Deuxième Chance à Marseille et qui lui réagit sur cette mémoire de ces jeunes issus de l'immigration, ces jeunes Français issus de l'immigration maghrébine qui souvent n'ont de leur histoire qu'une idée très floue, très très vague. Le temps passe et peut-être que le boulot n'est pas fait avec toute la précision et l'entrain que mérite chacun quant à sa mémoire, quant à son histoire, c'est-à-dire à son identité.
C'est compris, les Algéro-Palestiniens, ces jeunes, ils ont oublié la guerre d'Algérie. C'est parti, c'est fini en 62. Ils sont nés dans la génération 80, tout ça. Ils ont complètement oublié. Alors que s'il y avait le même conflit actuellement, le français serait la cible.
On n'en parle pas à l'école de la guerre d'Algérie, de la colonisation.
Si, on en parle, mais c'est un débat qui a été dépassionné. Voilà, les jeunes, ils savent qu'il y a eu une guerre. D'ailleurs, ils en ont une image complètement faussée. Hein. Ils savent vraiment pas ce qui s'est vraiment passé entre l'Algérie et la France. Vous leur dites que la France était là depuis 132 ans, ils restent bouche bée. Et ils croient que la France est venue, elle s'est implantée comme ça à partir de 1954. Elle a essayé de prendre l'Algérie, que l'Algérie était un pays indépendant depuis avant. Ils savent pas que, par exemple, c'est la France qui a créé l'Algérie. Hein. Et quand vous leur dites des choses comme ça, moi, je m'amuse souvent à faire ça. Alors, j'ai des trucs qui les choquent. Donc voilà, je leur fais, tu sais que tu es un sémite, hein, comme un juif. Hein. Je leur dis ça pour justement les faire réfléchir. Hein. Ça crée des liens, faire ça.
Tes parents, ils font quoi?
Mon père est retraité. Il a été ouvrier toute sa vie. Dans le bâtiment. Et ma mère est mère au foyer. Voilà.
Vous êtes combien d'enfants?
11.
11?
Je suis le number 11. Voilà. Ouais.
T'es l'exemple de réussite, de l'ascension sociale, t'es l'exemple du mec qui s'en tire, quoi.
On verra plus tard, espérons, j'espère. Vous savez, j'ai un frère, il est inspecteur des impôts. Donc j'ai mes sœurs, elles font des études. Mon frère aussi, il va devenir sûrement prof d'histoire d'ici peu. Donc, en fait, à la maison, si tu travailles pas à l'école, tu te fais taper sur les doigts, quoi. C'était comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas le cas de tous les jeunes, malheureusement. Ben malheureusement, la décision, la possibilité d'arranger des choses, c'est pas nous qu'on les a. C'est des gens qui ont beaucoup d'autres considérations, des considérations économiques, des considérations politiques, des considérations géopolitiques. Nous, on n'est rien pour eux. Nous, on n'est rien pour eux. Donc c'est bien, on discute tout ça, mais c'est du pipeau aussi.
Alors qu'est-ce qu'on se souhaite? Shalom?
Hein? Ben shalom. Shalom et salam. Vous entendez la ressemblance?
On entend la ressemblance et c'est une occasion de donner une autre image des jeunes des quartiers, comme on dit par euphémisme, là encore une entourloupe langagière, que celle qui est généralement répandue. C'est l'impression qu'a eu Dominique Vidal, qui participe, encore une fois, je le répète, à ces débats, et qui est l'auteur avec Karim Bourtel, Dominique Vidal et Karim Bourtel, Le mal-être arabe, un bouquin qui est sorti au printemps, là je crois en avril ou mai, aux éditions Agone, sur les enfants de la colonisation. On en parlera dans les émissions à venir, mais je voudrais que vous écoutiez la réaction de Dominique Vidal sur ce travail qu'ils ont fait au cours de leurs enquêtes sur cette jeunesse.
Quand on a fait l'enquête avec Karim Bourtel pour préparer le bouquin, on a rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes intellectuels. issus de l'immigration. Des tout jeunes, 21, 22, 25 ans. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas des fils de la bourgeoisie. C'est souvent, pas tous, mais c'est souvent des jeunes issus de familles populaires, des fils d'ouvriers, d'OS, de mineurs, qui ont vécu vraiment dans des conditions difficiles et qui ont fait l'effort, et leurs familles ont fait l'effort, de leur permettre de faire des études. Et je ne dis pas d'arriver, parce que ça ne suffit pas, quand on est un jeune issu d'immigration, d'avoir une thèse pour avoir du boulot. Hein. Ça, c'est clair.
Malheureusement.
Et ça m'a fait penser aux Juifs d'Europe centrale qui arrivaient en France dans les années 20 et 30, et où des familles d'artisans, d'ouvriers pauvres, parlant à peine français, comprenaient que la seule chance, c'était l'école, l'école, l'école. Et on a ces jeunes qui sont devenus ensuite, pour ceux qui n'ont pas été tués pendant la guerre, évidemment, dans le génocide, c'est devenu des vrais intellectuels, des cadres, des gens qui ont dirigé des associations, des partis politiques, souvent de gauche. Et je trouve qu'il y a un point commun aujourd'hui dans cette espèce de conscience que l'éducation, les études, la recherche, c'est la manière de sortir d'une situation, d'une condition qui n'est pas acceptable pour des jeunes aujourd'hui. Ce que les parents ont vécu comme sacrifice, c'est difficile de les demander aux jeunes qui voient bien que la France n'en est plus là et que la France, elle vit aussi, malgré tout, autrement.
Pourquoi c'est si peu connu? Pourquoi ces jeunes sont si peu médiatisés? Parce qu'ils pourraient servir d'exemple. Ça donnerait de l'espoir à tous ceux qui
absolument,
sont dans ces quartiers-là.
Absolument.
Mais on leur montre d'autres exemples.
Absolument.
Un peu plus médiatiques, plus spectaculaires, qui ont plus de 10 maths.
Absolument. C'est vrai que ces jeunes-là, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, on en a rencontré quelques dizaines, hein, ils sont plus intéressants qu'un Malek Bouti ou qu'une Fadel Amara, parce qu'ils ont à dire, ils ont travaillé, ils ont recherché. Pas plein d'opinions, parce que j'ai pas forcément les mêmes opinions qu'eux. Mais au moins, ils ont travaillé et on voit qu'ils ont envie de contribuer, quoi. C'est-à-dire, pas seulement dire on est des citoyens, on veut les mêmes droits que tout le monde, bien sûr, mais ils veulent aussi contribuer à la réflexion en France, à l'intellectualité en France, etc. Ça, j'ai trouvé ça emballant, quoi. Vraiment, on était emballés.
Voilà, merci à tous. Merci Dominique Vidal, Michel Warchavski, Leïla Chaïd. Merci à Mustapha El Niri, adjoint à la culture de la ville de Gardanne. Merci à tous et aux élèves du lycée professionnel de l'Étoile à Gardanne. En particulier, à souligner un numéro de la Revue internationale et stratégique, édité chez Dalloz, qui s'intitule « La société française et le conflit israélo-palestinien », avec des contributions, c'est un numéro spécial, avec des contributions d'une quantité d'auteurs sur ce sujet. C'est particulièrement pertinent. Et à voir ce soir sur Arte à 20h45, un documentaire de Jean-Pierre Kriff, le procès de Saddam Hussein dans le cadre de Théma, histoire d'un procès annoncé pour les repères de la base, j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. La base, j'y suis technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Olivier Rieutor. La réalisation, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutard. Assistante, Pascal E, Pascariello. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et celui qui s'en occupe de temps en temps, c'est Christophe Humbert. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Merci. Merci d'avoir écouté cette émission modeste et géniale qui précède ce qui suit.